Mesdames et messieurs, bonsoir. Une grande dame qui laissera un grand vide.
Au printemps 2006, à l'occasion des 20 ans de sa mort, les femmes du monde entier rendent hommage à la mémoire de Simone de Beauvoir.
Dans les camps de réfugiés palestiniens, les maisons sont très proches les unes des autres. On se parle de fenêtre à fenêtre. Et nous avons discuté le deuxième sexe comme ça, par la fenêtre. C'était la première fois que j'entendais parler de Simone de Beauvoir. J'ai pleuré tant j'étais touchée par sa façon de décrire la femme dans le monde. Elle était française, mais elle parlait de moi. Une femme palestinienne et arabe.
She is French, but she talks about me, Palestinian and Arabic woman, you know.
En Palestine ou au Québec, au Japon ou en Argentine, au 21e siècle, Beauvoir est devenue une icône mondiale. Modèle d'émancipation, elle a laissé derrière elle une œuvre vivante. Alors, dans ce dernier épisode, auscultons son testament.
J'ai envie que les gens me connaissent, parce que parmi les gens qui me lisent en particulier, il y en a beaucoup qui se trompent tout à fait sur mon compte. Et parmi les gens qui ne m'ont pas lu mais qui ont entendu parler de moi, il y en a également beaucoup qui se trompent sur mon compte.
Qu'on l'apprécie un peu, beaucoup ou pas du tout, personne ne peut nier que Simone de Beauvoir fut une aventurière du XXe siècle. Son épopée fut grandiose. Elle a mené sa vie comme elle aurait aimé qu'on la raconte dans un roman. C'est une prouesse. Beauvoir, c'est ce parcours initiatique décliné au féminin et une quête de liberté offerte à tous. C'est sans aucun doute son legs le plus précieux. Que vous soyez une femme, ou un homme d'ailleurs, d'outre-tombe, Beauvoir vous murmure cette petite phrase. Inventer votre vie.
Je n'ai jamais pensé que j'avais raté ma vie. Je suis extrêmement contente de ma vie puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie. Huitième et dernier épisode, l'héritage du castor.
Je m'efface donc maintenant pour donner la parole à Simone de Beauvoir.
J'ai commencé à vouloir vraiment écrire vers 15 ans. Je voulais écrire pour retenir quelque chose de la vie. Mais c'était primordial chez moi, vivre.
Mais pourtant, vous avez eu une éducation très bourgeoise.
C'est pas une raison pour aimer la bourgeoisie.
Je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes comme les hommes.
Comme le Capital de Marx sert de référence idéologique aux communistes, les féministes du monde entier, aujourd'hui, se réfèrent au deuxième sexe.
Cet ultime épisode commence par un flashback, comme un bref résumé des épisodes précédents.
Simone de Beauvoir est née en janvier 1908 à Paris.
RTF, 1949.
Elle a habité boulevard Montparnasse, puis rue de Rennes, joué au Luxembourg et fait ses études dans un cours de la rue Jacob. Saint-Germain-des-Prés n'est donc pas pour elle un quartier de café, de cave et de snob, mais plutôt la petite ville provinciale où s'est écoulée son enfance.
Beauvoir, une jeune fille de Paris, mais pas seulement.
Elle passait alors toutes ses vacances en Limousin, près de la petite ville moyenâgeuse d'Uzerche, et elle a gardé une prédilection pour ses paysages d'eau brunes et de fougères. Après son baccalauréat, elle a suivi en Sorbonne des cours de littérature puis de philosophie. C'est alors qu'elle s'est liée d'amitié avec Merleau-Ponty en préparant sa licence, puis avec Sartre et Nizan pendant l'année de l'agrégation qu'ils passèrent tous trois en 1929.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez la suite de l'histoire. Que dire alors du destin de Simone de Beauvoir?
Je pense que c'est un des destins féminins les plus exceptionnels de l'histoire de l'humanité.
Pascal Horry, historien et académicien.
Parce que elle partait d'assez bas, non pas au sens où on pourrait le croire, c'est-à-dire qu'elle viendrait d'un milieu modeste, évidemment pas, mais parce qu'elle était à l'ombre d'un grand homme. Donc elle a réussi à l'ombre d'un grand homme, et assez vite, hein, 1949, elle est dans la force de l'âge, elle réussit à s'affirmer, et après la mort du grand homme, puis après sa mort à elle, je pense que c'est elle qui résiste le mieux et qui est la plus contemporaine.
S'il y a une femme qui mérite la couverture de Paris Match, c'est vous.
Merci.
On va publier des extraits du deuxième sexe, plus un petit papier, ça fera comme un dossier. Manchette. Une femme appelle les femmes à la liberté.
Ah, ça a de la gueule.
Chapeau. Simone de Beauvoir, lieutenante de Jean-Paul Sartre et experte en existentialisme, est sans doute la première femme philosophe apparue dans l'histoire des hommes. Il lui revenait de dégager de la grande aventure humaine une philosophie de son sexe.
Longtemps le lieutenant de Sartre, elle le dépasse aujourd'hui dans nos mémoires.
Castor, je voulais changer le monde, mais c'est vous qui l'avez fait. Un jour, les femmes diront qu'elles vous doivent tout.
Beauvoir, de quoi est-ce le nom au XXIe siècle ?
Celui du deuxième sexe.
Le philosophe François Nudelman.
Qui reste un texte non seulement essentiel pour le féminisme, et rappelons, parce que même si on dit « ah oui, c'est daté », etc., qu'il n'y aurait pas de pensée du genre, de Judith Butler, de quantité de féministes d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Beauvoir. Vous savez, on dit toujours, maintenant c'est devenu un cliché, « ah oui, il faut déconstruire ». Bon, alors, l'homme déconstruit, etc. Mais quelle est la première qui a tout déconstruit ? C'est Beauvoir. C'est Beauvoir qui a déconstruit tous les rôles assignés à la femme de manière magnifique. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui a pensé, enfin, et mis en pratique la déconstruction, bon, c'est un mot qu'on doit surtout à Derrida, mais c'est Beauvoir. N'oublions pas cela du point de vue du féminisme.
Et puis, il y a eu cette phrase de Simone de Beauvoir, tirée du deuxième sexe, « On ne naît pas femme, on le devient ». Qu'est-ce qu'elle a provoqué, cette phrase, en vous ? Quelle réflexion est-ce qu'elle a fait surgir, Judith Butler ?
France Inter, 2021.
Cette phrase pour moi a une importance capitale par rapport à tous ceux qui affirment que les femmes sont naturellement comme ci ou comme ça, ou que pour exprimer sa féminité, il faut aimer de telle manière, vivre comme ci, comme ça, choisir telle profession, avoir telle allure, bouger de telle manière. On se dit, quoi ? Tout ça serait dicté par la nature ? Non, ce n'est pas possible. En revanche, c'était un moyen très malin, très efficace, de contraindre les individus à se conformer au code du genre qui leur était assigné, parce que si vous refusez de vivre, d'aimer, de bouger, de vous habiller en respectant ces codes, vous n'êtes pas naturel, or personne ne veut paraître contre nature. Donc j'ai toujours écarté cet argument du naturel. C'est pour ça que les catholiques de droite ne m'aiment pas et que les évangélistes d'Amérique du Sud ne m'aiment pas, parce que soutiennent cet argument.
Ensuite, philosophiquement, c'est un des grands textes de l'existentialisme. La fameuse phrase « on n'est pas femme, on le devient », mais aussi toute cette réflexion sur l'existence, sur l'émancipation. La philosophie de Simone de Beauvoir est une philosophie qui est à la fois d'analyse, spéculative, qui est une philosophie aussi politique, qui permet encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, je dirais, de penser l'émancipation. Il y a plusieurs voies d'émancipation, peut-être que ce n'est pas la seule pour les femmes, que celle qu'elle a voulu défendre avec une certaine idée de l'égalité ou de l'égalitarisme. Bon, il y a d'autres voies, mais enfin, en tout cas, ça reste d'une actualité très très forte, et ce texte écrit donc en 48, hein, c'est un ouvrage fondamental, un pilier de la philosophie du XXe siècle.
Simone de Beauvoir nous aide à penser le temps présent, le nôtre. Entre autres, parce qu'elle serait la mère du genre. Le genre, un mot qu'on emploie très souvent dans le monde d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être la mère du genre ?
Eh bien, ce mot genre, elle ne l'employait pas. C'est un mot qui est né beaucoup plus tard, comme nous le savons. Mais, que dit le genre ?
Michel Perrault, historienne.
Le genre, c'est la différence des sexes construite par la culture et l'histoire. Hein ? Gender, c'est ça. Et le genre, c'est un instrument, comme l'a dit John Scott, une américaine, un instrument utile de l'analyse historique. Qu'est-ce que disait Simone de Beauvoir quand elle dit « on ne naît pas femme, on le devient ». C'était l'idée que le féminin et le masculin sont construits aussi par la culture, par l'histoire, et qu'on peut les déconstruire. Il y a là une confluence totale, à mon avis, entre la notion de genre et ce que dit Simone de Beauvoir. Autrement dit, sans le mot, je trouve qu'elle est la mère du genre. C'est-à-dire de cette idée que masculin et féminin, cette différence des sexes que Françoise Héritier va étudier dans des livres fameux beaucoup plus tard, et ce sont des choses qu'on peut déconstruire puisqu'ils ne sont pas liés ni au corps ni à une nature. Voilà. Alors, comme les choses sont compliquées, une femme comme Françoise Héritier, par exemple, eh ben, elle n'est pas beauvoirienne, pourtant. Parce que Françoise Héritier, elle croit à la biologie. Elle pense que le corps biologique existe. Que la science, quand même, nous dit beaucoup de choses à ce sujet-là. Et que, par conséquent, il faut étudier la biologie, le corps des hommes, le corps des femmes, qui les assigne quelque part, mais sur ce corps qui existe et qu'elle ne conteste pas, s'est construit tout un univers symbolique de la pensée qui est celui qu'elle, elle déconstruit dans la différence des sexes. Voilà, c'est tout. C'est tout. Au fond, il y a une espèce de réhabilitation de la science et de la biologie dans la réflexion sur la différence des sexes, mais tout cela, ça veut dire que Simone de Beauvoir est là aussi présente avec sa pensée.
Dans sa pensée, Beauvoir a abondamment réfléchi au corps des femmes. Prenons un exemple très concret, la puberté. Et vous allez constater combien Beauvoir s'avère très utile encore aujourd'hui pour décortiquer des situations qui se perpétuent.
Donc elle raconte dans Le deuxième sexe que ce qui se passe, c'est que la petite fille est une petite fille, etc. Et puis un jour...
Manon Garcia, philosophe.
Ça peut être un vieil oncle, un mec dans la rue, qui va lui faire une remarque en lui disant des trucs genre « Ah, bah dis donc, ça pousse !» Ou alors « Ah, dis donc, t'es une jeune fille !» Une espèce de commentaire libidineux comme ça. Et que ça fait une expérience vécue extrêmement violente pour la jeune fille, qui est de se découvrir, ce qu'elle appelle se découvrir chair, donc C-H-A-I-R, donc elle est de la chair, quoi, dans les yeux de cet homme-là. Et que ça crée une espèce de, donc un sentiment d'altérité, donc d'être autre que soi, et qu'elle découvre que son corps de femme est un corps pour les hommes, dans les yeux des hommes, avant même d'être un corps pour elle. C'est-à-dire que, en fait, elle a pas encore des désirs sexuels comme elle en aura plus tard, etc. Mais elle est sexualisée dans le regard des hommes avant d'être sexualisée par elle-même, d'une certaine manière. Et Beauvoir raconte comment, voilà, la jeune femme généralement raconte ça à sa mère, et tout d'un coup sa mère dit « Ah oui, oui, bon alors on va te mettre des pantalons, là, ah oui, bah il faut que tu mettes des robes beaucoup plus longues. » Donc tout ce truc de la panique de la mère qui décide tout d'un coup qu'il faut couvrir le corps de la jeune fille puisqu'elle devient un corps sexué, en fait. Donc ça, c'est quelque chose, quand on lit Le deuxième sexe, il y a plein d'expériences comme ça, on se dit oh, « Ah ouais, c'est dingue !» Et moi, je le vois, parce que c'est un texte que j'enseigne beaucoup, toutes mes étudiantes, elles disent à des niveaux différents, mais quelque chose comme « j'ai l'impression de lire mon journal » ou « j'ai l'impression que ce qu'elle décrit, c'est ma vie ». Et on voit ça dans le courrier des lecteurs aussi, un sentiment de voir enfin décrit quelque chose qu'on pensait être la seule à vivre, en fait.
On continue à parler avec vous des femmes, justement, et du regard de la société sur leur corps. C'est l'un des sujets de la rentrée. Qu'est-ce qu'une tenue correcte ou décente au collège ou au lycée pour une adolescente ?
Les pieds sur terre, France Culture, octobre 2020.
Alors, la semaine de la rentrée, le 10 septembre, le jeudi, il y a eu plusieurs filles qui se sont pris des remarques parce qu'elles avaient des hauts un peu courts, des crop tops, enfin les hauts à la mode en ce moment. Et en gros, c'est les surveillants, enfin une surveillante en particulier, qui a dit que c'était provoquant, qu'un t-shirt ça se mettait jusqu'en bas du ventre, que c'était pas tolérable pour un lycée. Enfin, ça m'a fait de la peine parce que moi j'ai toujours eu des bonnes années ici, des adolescents mais encore en pleine quête identitaire. Et comment je m'habille, ça m'aide à me sentir mieux et pour moi, ça aide beaucoup dans l'adolescence, quoi. Et un adulte ne devrait pas dire ça à un adolescent. Du coup, le soir même, bah, j'étais en colère et j'étais dans le bus. Du coup, j'ai mis un tweet. Mais en gros, j'avais écrit « Aujourd'hui, six filles du lycée Édouard Branly de BSM, enfin Boulogne-sur-Mer, ont reçu des réflexions désobligeantes de la part de surveillantes. Une des filles a même reçu une heure de colle pour ne pas avoir porté de soutien-gorge. Une des surveillantes a justifié le viol par la tenue jugée provocante. J'invite donc toutes les personnes qui le souhaitent, mais surtout les filles, à venir habillées de manière dite provocante demain et à manifester de nos côtés. » Une heure qui a passé mon tweet, il devait déjà être à 2000 likes.
En 2020, les adolescentes françaises se sont donc emparées des réseaux sociaux avec le hashtag lundi 14 septembre. Et il nous semble presque aujourd'hui que le deuxième sexe annonçait aussi le mouvement MeToo, né de la même manière sur les réseaux sociaux et qui a provoqué un véritable séisme international en jetant une lumière crue sur les violences sexuelles.
Il y a des passages où on a l'impression qu'elle a écrit en 2017. Quoi. Il y a un passage hyper intéressant où elle parle des stars de Hollywood qui croient à l'empowerment. Vous voyez, ce truc d'avoir du pouvoir sur soi-même parce qu'elles font des régimes et qu'elles vont à la salle de sport pour être hyper musclées, etc. Et que c'est une forme de contrôle de soi. Donc c'est vraiment le truc qu'on voit à Beyoncé, les stars hollywoodiennes et tout ça. Et elle dit quelque chose comme « Mais à la fin, l'actrice hollywoodienne n'est tout de même qu'une proie dans les mains du producteur qui voudra coucher avec elle, quoi. » Et au moment de l'affaire Weinstein, quand vous lisez ça, c'est dingue, quoi. Parce que c'est exactement tout ce qu'on entendait, mais quand même, ces actrices, elles sont censées avoir plein de pouvoir, elles sont fortes, elles sont indépendantes, elles sont riches et tout ça. Comment elles peuvent être violées par Weinstein? Ça semble impossible. Et elles montrent comment ça marche dans le deuxième sexe.
France Inter, 6 janvier 2020.
Harvey Weinstein vient de pénétrer à l'intérieur de ce tribunal du sud de Manhattan, marchant difficilement à l'aide d'un déambulateur, le dos voûté. 20 minutes plus tard, une quinzaine de ses victimes présumées se retrouvent face à ce même tribunal pour manifester. L'actrice Rose McGowan, qui accuse Weinstein de l'avoir violée en 1997, s'adresse directement à l'ancien producteur hollywoodien.
Dear Harvey,
cher Harvey,
no matter what lies,
peu importe les mensonges que tu te racontes à toi-même, tu as
today,
fait ça.
Justice,
aujourd'hui, la justice examine un super prédateur, toi, sache une chose, nous sommes libres, nous sommes belles, nous sommes fortes et tu ne nous enlèveras jamais ça.
Régulièrement, Simone de Beauvoir est accusée de se poser en procureur à l'égard des hommes, d'être une femme austère, dure et insensible au plaisir de la vie. D'où vient ce stéréotype?
C'est vraiment un cliché sexiste, hein, contre les féministes. C'est tellement ancré dans l'idée des gens que les féministes, c'est des mal baisés, quoi. Qu'on ne serait pas féministe si on aimait vraiment les hommes, etc. Que être féministe, c'est être anti-homme, tout ça. Ça a participé à la construction d'un imaginaire contre Beauvoir. Et ce qui est fascinant, c'est que on a beau avoir toute sa correspondance, on a beau voir que ça ne correspondait mais absolument pas à la réalité de sa vie, ça n'a aucun effet.
Oui, parce qu'il faut redire, Manon Garcia, que Simone de Beauvoir, c'est un souffle de vie, de jouissance et de joie. Il faut le répéter quand même.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est important. Mais vraiment, quand on lit sa correspondance, notamment avec Algren, on se dit « Vas-y, Simone !» Elle rigolait pas du tout, quoi. C'est vraiment... elle aimait bien... Enfin, elle a vraiment arrêté de coucher avec Sartre parce qu'elle trouvait qu'il était vraiment trop nul au lit et que elle, ce qu'elle aimait, c'était du bon sexe, quoi.
Castor, j'ai pensé à me marier, moi.
Je sais que c'est elle qui vous a plaqué.
Ne vous fatiguez pas, Sartre.
Elle a compris que j'étais lié à vous pour l'éternité.
Ne comptez plus sur moi pour jouer les lots de consolation, cette époque est révolue.
Vous seul m'êtes nécessaire, Castor.
Trop tard. J'aime ailleurs. Il me donne ce que vous avez toujours été incapable de me donner, du plaisir.
Ça ne vous rend pas moins chiante d'être bien baisé?
Personne ne vous retient.
Mieux à faire qu'une scène de ménage. Et j'en ai déjà eu plus que ma ration.
Ce n'est pas une scène de ménage, c'est une rupture.
Elle incarne pleinement son propre projet féministe.
La philosophe Camille Froide-Vaumétry, France Inter, 2021.
Elle décrit le plaisir qui était le sien à éprouver son corps dans la fatigue des grandes randonnées, mais elle décrit aussi, je pense notamment au recueil de ses lettres à Nelson Algren, le plaisir qu'elle avait à s'imaginer porter telle ou telle tenue pour une prochaine rencontre avec lui. Elle décrit aussi le plaisir qu'elle avait à porter quelques bijoux, elle parle des compliments qu'on lui fait à ce propos. Elle est, je crois, peut-être l'exemplification même de ce que ça peut être d'être son corps quand on est une femme, mais de l'éprouver en étant libre et en étant en pleine possession de son propre corps, c'est-à-dire en ne l'abandonnant pas aux autres, en le vivant dans toutes ses dimensions, y compris dans ce que ça peut signifier d'accomplissement et de gratification sexuelle, parce que ça, dans ses lettres aussi, c'est manifeste et c'est très beau d'observer à quel point elle est... Alors, elle n'est pas très explicite, hein, elle reste assez allusive, mais on voit bien que c'est une dimension importante de sa relation à Nelson Algren, notamment. Simone de Beauvoir, c'est vraiment le corps-sujet dans toute la multiplicité de ses facettes.
Pour comprendre la mue, puis l'héritage de Simone de Beauvoir, il faut aussi prendre en compte la marche de l'histoire. Les événements du XXe siècle ont joué un rôle crucial dans son existence.
C'est surtout l'histoire qui a été vraiment la cause des grands changements, même intérieurs, que j'ai pu subir, parce que je l'ai vécu de beaucoup plus près que je ne l'avais vécu avant la guerre, ayant appris pendant la guerre précisément combien je lui étais lié et ne pouvant plus séparer maintenant ma propre aventure de l'aventure collective. Or, l'histoire a été évidemment extrêmement riche, extrêmement douloureuse, d'ailleurs aussi parfois. Il y a eu la guerre d'Indochine et il y a eu beaucoup plus près, beaucoup plus douloureuse parce qu'elle était plus près que nous étions engagés, la guerre d'Algérie. Ça a été pour moi une très pénible expérience parce que, en très grande partie, je l'ai vécu avec un petit groupe d'amis tout à fait à l'écart de l'ensemble de mon propre pays, contre lui, ce qui n'est pas quelque chose qui se fait de gaieté de cœur. Et j'y ai senti, à ce moment-là, dans mon propre pays, une sorte d'exil. La guerre est finie maintenant, c'est une nouvelle période qui s'est ouverte, mais c'est évidemment une expérience qui m'a marqué profondément et que je n'oublierai certainement jamais.
Un des grands talents de Beauvoir, c'est d'être une femme de son époque et de tirer les leçons de son époque. C'est sûr que, par exemple, son engagement pendant la guerre d'Algérie est le produit de ses erreurs sur la résistance. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de tirer les leçons de leurs erreurs comme ça. Et je pense que c'est vraiment une femme de son époque et une femme très moderne tout le temps. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu excédée de voir des féministes réac qui disent « Ah, si Beauvoir voyait ça, elle trouverait ça vraiment scandaleux, l'écriture inclusive, les femmes trans, machin. » On se sert toujours de Beauvoir pour dire « Elle trouverait ça scandaleux. » Mais quand même, Beauvoir, elle disait toujours « Quand il y a le choix, il faut être le plus radical possible. » Donc, moi, je pense qu'elle serait aujourd'hui vraiment intersectionnelle, favorable au combat des femmes trans, favorable à l'écriture inclusive. C'était plutôt quelqu'un qui avait toujours un coup d'avance sur son temps de la manière la plus moderne qui soit, quoi.
Simone de Beauvoir est morte en 1986. Il y aura bientôt 40 ans. Elle est donc une femme du siècle dernier. Ce qui pourrait laisser penser que ses théories ne sont plus d'actualité.
L'histoire, c'est le changement.
Michel Perrault.
La société d'aujourd'hui n'est plus la société de Simone de Beauvoir, à aucun point de vue, presque à aucun point de vue. Elle ne l'est plus sous l'angle du travail, elle ne l'est plus sous l'angle des moyens de communication, des techniques. C'est un monde complètement changé par rapport à Simone de Beauvoir. Même l'écriture n'a plus la même place. Elle ne l'est plus non plus dans le domaine de la biologie, de la science. Voilà, donc tout a changé. Les rapports entre les sexes ont évidemment changé aussi. Les revendications des féministes ne sont plus les mêmes. Dans le mouvement de libération des femmes, ce qui comptait, c'était l'IVG. C'était ça, c'était un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux. Maintenant, c'est MeToo. C'est MeToo, c'est-à-dire un peu une extension aussi quand même de ça, c'est-à-dire mon corps est à moi. Hein. Mon corps est à moi, je ne veux pas que vous y touchiez si je ne veux pas, et même je peux vouloir un enfant toute seule. Voilà. Donc, oui, ça a beaucoup changé, mais quelqu'un comme Simone de Beauvoir nous a ouvert la voie.
Beauvoir demeure une source d'inspiration. Et en voici une illustration. Nous sommes au début du printemps 2023. Martine Abbat, notre reporter, avait rendez-vous dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, dans le 18e arrondissement. Amir Pacha Tavakoli est un jeune Iranien. La trentaine, français depuis peu, il est docteur en sciences politiques. Large sourcils noirs, visage ouvert et souriant, il a accueilli Martine Abbat avec le traditionnel thé iranien.
On boit beaucoup de thé en Iran ?
Ah oui, on boit beaucoup de thé.
À beaucoup de moments de la journée ?
Ah, matin, midi, soir, n'importe quel moment, le thé est toujours...
chaud.
Chaud et bienvenu.
Amir Pacha Tavakoli connaît très bien l'œuvre de Simone de Beauvoir et depuis longtemps.
Oui, j'ai travaillé sur Simone de Beauvoir à plusieurs occasions quand je faisais mon mémoire de licence en Iran. Elle est étudiée, ses écrits sont traduits et traduits depuis longtemps.
Depuis les années 70, c'est ça ?
On a certaines traces d'elle même dans les journaux des années 60. Et c'est quelqu'un qui touche particulièrement la jeunesse iranienne. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant de voir que si c'était Sartre, la référence de la jeunesse iranienne dans les années 60-70, étant donné le contexte de l'époque, aujourd'hui c'est Simone de Beauvoir qui est beaucoup plus présente auprès de la jeunesse iranienne, et pas uniquement des filles.
Et alors, justement, qu'est-ce qu'elle... propose Simone de Beauvoir, dont s'empare aujourd'hui la jeunesse iranienne. Qu'est-ce qu'elle leur permet de comprendre de ce qu'ils vivent ?
Premièrement, je pense le courage, le désir d'être libre, l'aventure d'être soi-même. L'aventure d'être soi-même, comme elle le disait elle-même. Donc ça, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement, nous, la jeunesse iranienne, parce que notre terrain de vie est l'objet de surveillance, de contrôle. Il n'y a pas d'espace libre, si vous voulez. Même notre vie privée peut être l'objet de contrôle et de surveillance. C'est-à-dire que nous sommes surveillés de A à Z. Il n'y a pas d'espace privé, il n'y a pas d'espace réservé à l'individu. Tout espace est sous le contrôle idéologique de l'appareil d'État, d'une certaine manière. Et en effet, ça va du code vestimentaire jusqu'aux relations les plus intimes, les plus personnelles. Aussi bien la relation amoureuse que l'amitié, que la croyance. Donc, l'aventure d'être soi-même, c'est un idéal qui nous est cher. Et c'est ce désir de liberté dont nous en sommes grandement privés. C'est cela, en particulier, qui rend la démarche de Simone de Beauvoir si importante. Peut-être un premier point, et un deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de liberté sans la libération des femmes aussi. On a pu voir ça récemment, vous voyez, les gens se sont rassemblés autour de femmes, vie, liberté.
Femmes, vie, liberté. C'est le slogan qui a été repris partout en Iran durant les manifestations qui ont suivi la mort de la jeune Mahsa Amini en septembre 2022.
Pour rappel, elle a été arrêtée par la police des mœurs parce que sa tenue était jugée indécente. Depuis sa mort, elle est devenue un véritable symbole de l'oppression des femmes en Iran. Et c'est pour lutter contre cette oppression que de plus en plus de femmes retirent leur voile. Certains vont même jusqu'à le brûler.
Et tout cela autour des valeurs issues du féminisme et des valeurs égalitaristes et démocratiques surtout. Et en cela, c'est vrai que l'approche de Simone de Beauvoir est... libératrice dans le sens qu'elle est capable justement de nous dévoiler déjà l'ampleur de ce contrôle, parce que vous voyez, on est tellement dedans qu'on peut ne pas s'apercevoir justement, vous voyez, c'est tellement
en société,
absolument. Et justement, grâce à elle, ils ont été assez nombreux d'ailleurs ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux, des personnes qui disaient comment peut-on continuer à vivre après avoir découvert Simone de Beauvoir.
Dans ce grand mouvement de rébellion en Iran, l'approche de Beauvoir est inspirante.
Ça, c'est des tweets.
C'est des tweets sur Instagram. Alors là, on dit, vous voyez,
donc c'est,
déjà,
c'est écrit en...
en persan, on marque aujourd'hui, c'est le 8 mars. Et nous, après avoir lu Deuxième Sexe, on a décidé d'aller de plus en plus participer et manifester lors de ce jour important. Et maintenant, avec la révolution de femmes, vie, liberté, on relie le deuxième sexe différemment.
Donc ça, c'était ce 8 mars, là.
Et ce 8 mars, exact.
2023.
Tout à fait.
Depuis 8 mois, la jeunesse iranienne, souvent au péril de sa vie, se révolte contre l'oppression tyrannique du pouvoir religieux et politique. Et cette jeunesse a fait surgir l'image de Simone de Beauvoir.
Alors là, c'est ici, c'est l'université de Téhéran, des réunions des étudiants féministes de l'université de Téhéran, qui disent, Simone de Beauvoir nous indique que le mariage, c'est le destin que la société traditionnelle propose aux femmes, et bien plus maintenant.
Donc, et avec une photo de Simone de Beauvoir.
Avec une photo de Simone de Beauvoir, je trouvais ça
donc
drôle.
Donc il se réfère à elle.
Tout à fait. Et puis là, ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant parce que là, c'est écrit, pareil, encore une citation de Simone de Beauvoir qui nous dit « Quelle est notre responsabilité pacifiste, guerrière, révolutionnaire ou rien de rien par rapport au sang des autres ?» Donc référence au roman. Et justement, là, ça a été tweeté pas mal de fois en disant que « Quelle est aujourd'hui votre responsabilité par rapport au sang des autres ?»
Au sang qui a été versé.
Exactement.
Par ceux qui sont morts lors de ces manifestations.
De femme, vie, liberté, voilà. Tout ça, ça date de ces 2-3 derniers mois.
Des tweets récents.
Ou des messages sur Instagram très, très récents.
Très récents.
En lien avec femme, vie, liberté.
Ainsi, sur les réseaux sociaux en 2023, la jeunesse iranienne en colère se place sous l'égide de cette intellectuelle française du XXe siècle.
Donc là, pareil, nous avons mis une photo de Simone de Beauvoir. Sur,
c'est une photo où elle est habillée en rouge.
Tout à fait.
Avec son rouge à lèvres rouge assorti. Très
tout
belle
à
photo.
Fait, très jolie photo, je suis d'accord avec vous. Et en bas, c'est écrit « Elle a pris son destin en main. Nous aussi, nous l'avons pris en main. Et nous avons créé Femme, Vie, Liberté. » Bonne chance.
Comment on dit en persan ?
Zan Zendegi Azadi. Zan Zendegi Azadi.
Zan Zendegi Azadi.
Parfait.
Au cœur de la révolte du peuple iranien se niche l'esprit de Simone de Beauvoir, perçu comme un modèle d'émancipation avec un message en creux. Ne laisse personne décider à ta place, prends ta vie en main. C'est à cela qu'on reconnaît une œuvre vivante. 40 ans après sa mort, Beauvoir irrigue les contestations. Par ailleurs, ces jeunes femmes iraniennes, soutenues par des hommes, font l'histoire.
On en a assez. Les femmes ont été opprimées plus que quiconque dans ce pays. Elles ont mené cette révolution. Et nos hommes courageux ont suivi. L'autre point important, c'est que cette fois, c'est largement partagé. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à le faire savoir.
Leurs actions, leur courage, leurs manifestations et leur colère nourrissent le fleuve des événements historiques. Et on en fait le récit. Les historiens raconteront ce qui s'est passé et combien ces femmes iraniennes ont ébranlé ce régime totalitaire. Or, pendant très longtemps, les hommes n'ont pas écrit le récit historique du rôle des femmes dans la société. Et sur ce point précis, il faut dire que Simone de Beauvoir s'est peut-être un peu trompée.
Simone de Beauvoir disait « Les femmes n'ont pas d'histoire, ce sont les hommes qui ont écrit l'histoire des femmes. » Chose que nous, historiennes, nous contestons absolument. Et nous avons construit l'histoire des femmes un peu contre ça, d'une certaine manière. Parce que le mot « histoire » a deux sens. Ce qui s'est passé et le récit que l'on fait de ce qui s'est passé. Dans ce qui s'est passé, les Anglais disent « story », il y a les femmes, depuis la préhistoire. Dans le récit que l'on en fait, et que les Anglais appellent « history », hein, histoire, justement, au sens histoire, au sens récit, les femmes ne sont pas, parce que le récit de ce qui s'est passé a été construit par les hommes. Depuis les Grecs, hein, Aristote, Platon, etc., ce sont les hommes qui ont écrit l'histoire. Et ils ont écrit une histoire qui est une histoire publique. La politique, les guerres, les créations qui sont nécessairement celles des hommes. Les femmes, non, n'existent pas. Dans la cité grecque, on ne parle pas des femmes. Et nous, historiennes, pour faire l'histoire des femmes dans la cité grecque, il a fallu utiliser, par exemple, les vases grecs, pour voir où étaient les femmes, comment on les représentait dans la cité grecque. Autrement dit, il y avait une négation de la place des femmes dans le récit de l'histoire qui était fait par les hommes. Et c'est ça que les historiennes ont voulu faire. Elles ont dit, mais attention, le silence règne. Mais les femmes étaient là. Et en cherchant d'autres sources, en questionnant les femmes pour la période récente, évidemment, on va les faire apparaître et on va écrire une histoire des femmes qui soit pas seulement une histoire des femmes toutes seules, mais qui soit la manière dont les hommes et les femmes vivaient leurs différences au cours du temps. Comment cette différence était construite dans le pouvoir, dans le savoir, dans la vie quotidienne, dans l'art, dans les représentations, dans les mots, etc., etc. Si vous prenez cette question de la différence des sexes comme un problème, comme une hypothèse, vous avez un chemin absolument passionnant pour écrire l'histoire des femmes, pas seulement celle des femmes, mais celle des hommes. Et la différence des sexes, c'est ça qui est l'intérêt. Et c'est le genre.
Nous arrivons tout doucement au terme de cette série consacrée à Simone Bertrand de Beauvoir. Alors, reprenons la trame principale de notre récit, à savoir la bourgeoisie, une origine sociale qui a souvent résonné comme un reproche adressé à Simone de Beauvoir.
Mais pourtant, vous avez eu une éducation très bourgeoise.
Radio-Canada, 1959.
C'est pas une raison pour aimer la bourgeoisie.
Mais vous ne semblez pas vous être avoir eu des mouvements de révolte quand même.
Non.
Quand vous...
Je ne me suis pas révoltée au jour le jour, mais j'ai gardé un très grand dégoût par la suite des institutions bourgeoises. Ça commençait par une espèce de malaise. Je trouvais qu'il y avait une incohérence entre ce que les gens disaient et ce qu'ils faisaient. Petit à petit, sans révolte, il y a une espèce de bêtise qui m'a sauté aux yeux. J'ai essayé de m'écarter le plus possible de cette espèce de schéma tout fait, tout bâti. Je voulais inventer ma vie, je pensais qu'on sentirait beaucoup mieux qu'en répétant des routines éprouvées, mais justement très mal éprouvées.
Ce chemin de liberté, entrepris par Beauvoir, c'est un itinéraire qui fait écho au titre choisi pour cette série. Un voyage en bourgeoisie. Qu'en aurait-elle pensé ?
Je pense que dans ses plus grands moments de lucidité, Simone de Beauvoir aurait accepté cette formule.
Pascal Horry.
Parce qu'elle était assez autocritique à l'égard de son milieu, voire d'elle-même. C'est peut-être quand même un peu réducteur, sauf à considérer qu'une bonne partie des rébellions, j'irais plutôt rébellion que révolte et plutôt révolte que révolution, une grande partie des rébellions viennent des classes dominantes, avec des personnalités à toutes les époques et dans tous les pays du monde, des personnalités qui certes sont en révolte, de façon tout à fait variée de l'une à l'autre, contre ce milieu, mais qui en même temps ont une autorité, parfois d'ailleurs une culture intellectuelle, qui vient de ce milieu. Elles s'en servent, à la limite, contre leur milieu. J'ajoute qu'en ce qui concerne le rapport de Simone de Beauvoir au féminisme, l'antiféminisme, la misogynie, étaient très largement partagés dans les entre guillemets, classe populaire, et au sein du Parti communiste, pour n'y citer que deux exemples. Hein. Donc, la misogynie n'était pas la propriété de la droite, de l'extrême droite ou du catholicisme.
La littérature et l'éducation bourgeoise ont donc nourri et façonné l'esprit de Simone de Beauvoir. Elle est bien l'enfant de son milieu. Venue d'une bourgeoisie réactionnaire, sa trajectoire personnelle l'a conduite ensuite à embrasser des valeurs plus éclairées, qui font sans doute la spécificité d'une certaine bourgeoisie française.
Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette bourgeoisie par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Italie, etc.
L'historien Christophe Charles.
Et je pense qu'il y a, fondamentalement cette spécificité que c'est finalement la seule bourgeoisie qui a fait une révolution. Alors, ça a l'air un peu brutal de dire ça, mais si vous regardez l'Angleterre, il y a toujours une aristocratie qui est très forte. Bon, une partie de la bourgeoisie française a collaboré et a soutenu Vichy, mais enfin, il y en a aussi une partie qui était du bon côté et qui s'est battue et qui a soutenu la France libre et le général de Gaulle et la résistance. Donc, il y a quand même une spécificité politique de longue durée de cette bourgeoisie française. Alors, du coup, évidemment, le milieu d'où vient Simone de Beauvoir est, lui, un peu très à part par rapport à une vision plus nuancée et plus globale de la bourgeoisie française. Et puis, il y a une autre spécificité, alors ça peut paraître un peu... Mais on retrouve Simone de Beauvoir aussi là, c'est quand même ce culte de la littérature. Cette croyance dans la toute-puissance de la culture lettrée, qui est quand même quelque chose qui a marqué la France bourgeoise depuis quasiment le XVIIIe siècle.
J'écris, comme un forcené, plusieurs livres à la fois. Vous aussi vous écrivez, n'est-ce pas?
Plus modestement.
Essai, roman?
Un essai.
Pardon?
Et aussi cet optimisme, finalement, de penser que la France est toujours le pays des Lumières, le pays de la vérité, le pays des intellectuels. Et ces intellectuels ont été souvent issus de cette bourgeoisie. C'est quand même le seul pays où il y a cette espèce de fascination, où on avait un président de la République, François Mitterrand, qui se posait en littérateur, en amateur de livres, où chaque président se croit obligé d'écrire un livre, que ce soit ses mémoires, que ce soit une biographie. Enfin, il y a quand même quelque chose là de très spécifique qu'on ne trouve pas dans ces autres bourgeoisies européennes, et encore moins américaines, où ce type de fantasme serait ridicule. On n'imagine évidemment pas Donald Trump en romancier. Voilà. Donc, il faut aussi rendre à César ce qui est à César et à la bourgeoisie ce qui est à la bourgeoisie.
Ce titre, Un voyage en bourgeoisie, renvoie également à une dimension sociologique.
Je vois bien que c'est justement pour comprendre comment l'itinéraire de Simone de Beauvoir s'est construit en rupture avec le milieu auquel on appartenait, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme social. Et ça, c'est en effet très important. Revendiquer sa liberté, bah, c'est dire je suis né où je suis né, j'y suis pour rien. Hein. Mais je choisis mon modèle, je choisis ma vie de femme, absolument en dehors de tous les modèles sociaux, y compris du modèle bourgeois.
Malgré tout, durant ce voyage, il y a eu parfois des erreurs de jugement. Ce fut notamment le cas en janvier 1977, lorsque Beauvoir, avec d'autres intellectuels, signa la pétition défendant les relations sexuelles entre adultes et enfants, publiée dans Le Monde et rédigée par Gabriel Matzneff. Une pétition indigne, signée par Beauvoir, au nom de la lutte contre l'ordre moral. C'est ce qui a motivé, à l'époque, cette signature. Ce combat contre un esprit réactionnaire a été le moteur de sa vie et de son œuvre, et qui l'a conduite à se déplacer au sein d'un système de valeurs bourgeois. D'où le choix de ce titre.
Voyage en bourgeoisie, oui, on pourrait dire condamnation de la bourgeoisie. Un voyage très critique en bourgeoisie.
L'historienne Sylvie Chaperon.
Mais c'est vrai que les mémoires d'une jeune fille rangée, c'est la peinture du monde de la bourgeoisie catholique, il faut bien le préciser quand même, hein, il y a des bourgeoisies plus ou moins progressistes, d'une bourgeoisie catholique qu'elle a dénoncée, et c'est sans doute par les mémoires que beaucoup de femmes se sont identifiées, parce que le deuxième sexe est quand même d'une lecture un petit peu ardue, tandis que là, c'est le récit d'une enfance et c'est le récit du rejet de la bourgeoisie et de ses normes draconiennes. Et beaucoup de femmes ont vécu la même chose.
Mais est-ce que vous pourriez imaginer que l'accomplissement de soi, l'émancipation de l'individu, pouvait aussi être, fut un temps, un idéal bourgeois de la Révolution française, par exemple, et que, en fin de compte, sa véritable force, c'est de penser cet idéal bourgeois pour les autres. C'est-à-dire que l'émancipation de l'individu, qui est quand même une sorte, encore une fois, de ressort bourgeois, mais pensée pour tout le monde.
Oui, parce que c'est pas. Elle ne s'intéresse pas qu'à elle. Elle veut que les droits et cette émancipation qu'elle a réussi à faire, il faut bien le dire quand même, c'est un peu un tour de force venu du milieu dont elle est issue. Elle a voulu que cette émancipation et cette réalisation deviennent la base commune de toutes les femmes, hein, et qu'on n'enferme plus les femmes dans des destins de mère au foyer en particulier, d'épouse bienveillante et soumise. Elle a cette générosité de vouloir offrir à tout le monde l'émancipation qu'elle a réussi à acquérir pour elle-même.
Je n'ai jamais pensé que j'avais raté ma vie. Je suis extrêmement contente de ma vie.
Simone de Beauvoir, 1967.
Et je trouve que si on prend le mot de Goethe, qu'est-ce que c'est qu'une belle vie, ce sont des rêves de jeunesse réalisés dans l'âge mûr. Eh bien, alors vraiment, j'ai réussi ma vie, puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves.
Posons maintenant la question à l'historien Christophe Charles. De quoi Beauvoir a-t-elle été le nom au XXe siècle ?
Elle est le nom de la capacité de la France à changer, de la capacité de remettre en cause les modes de vie et les habitudes sociales les plus anciennes et les plus ancrées, c'est-à-dire les représentations des rôles des hommes et des femmes, de la capacité de diffuser ce message largement, puisque, évidemment, si nous en parlons, c'est parce qu'elle a été lue par beaucoup de lecteurs, des millions de lecteurs, parce qu'elle a eu aussi un rôle au niveau international, une reconnaissance internationale, puisque une de ses principales biographies a été rédigée par une Américaine. C'est une très très grosse biographie, donc ça montre l'impact à l'extérieur. Et aussi, évidemment, le symbole de la puissance, j'y reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, de la littérature, finalement, dans la société française. Parce que la force de la littérature, à cette époque-là, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore vrai, mais en tout cas, à cette époque-là, était réelle. Et l'audience des écrivains, leur capacité à porter des causes et à porter des idées, était encore tout à fait puissante et tout à fait dans la lignée des grands écrivains du XVIIIe et du XIXe siècle.
La littérature, ce fut le véhicule de l'émancipation de Simone de Beauvoir. Et c'est par ce biais que se fait aussi son voyage. Par l'écriture, elle a rencontré son époque, et notamment grâce à la publication de ses mémoires.
On m'a demandé quelquefois pourquoi j'avais passé 7 ans à écrire mon autobiographie. Et en effet, elle représente une partie importante de mon œuvre, puisqu'il y a 3 volumes, les mémoires d'une jeune fille rangée, la force de l'âge, la force des choses. J'ai intitulé le dernier volume « La force des choses » parce qu'il va de 1945 à 62 et à cette époque, depuis la guerre, je me suis rendu compte de l'importance que les circonstances avaient dans le déroulement d'une existence, alors qu'auparavant, je croyais que ma vie était une histoire que je me racontais.
L'ultime paragraphe du dernier volume de ses mémoires, La force des choses, s'achève par ces mots. Je mesure avec stupeur à quel point j'ai été floué. Une phrase mystérieuse. Comment faut-il l'interpréter ?
Ce j'ai été floué, selon qu'on se considère comme son ami ou son ennemi, on l'interpréta différemment.
L'académicienne Danielle Salnave.
Si on est son ennemi, on pense que c'est bien fait. Tu t'es trompée, t'as été flouée, t'as cru à des choses, et Cuba, et que sais-je, et la Chine, et le féminisme, etc. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux-là. Je fais partie des autres. Je pense que ce « j'ai été flouée » est terrible, parce qu'il dit que rien ne nous a été promis, et que si nous avons cru à un moment ou à un autre que quelque chose nous était promis, eh bien nous avons été floués, car personne n'a tenu cette promesse. Et le fait que rien ne nous est promis et que personne ne tiendra cette promesse, elle en prend une conscience extrêmement aiguë, qui rejoint ses fragilités du début. Du temps même où elle était encore croyante, jusqu'au moment où, vers 14 ans, elle dit à sa mère, c'est fini, sa mère dit, tu me fais peur. Elle a quitté la religion. D'accord. J'ai été flouée. Je ne sais pas, j'ai parfois l'impression que quelque chose est brisé.
Cette grande lucidité aura accompagné Simone de Beauvoir tout au long de sa vie, au point de donner naissance à une œuvre impérissable.
Ces questions que soulève Simone de Beauvoir, 30 ans après sa mort, un peu plus même, non seulement ne sont pas mortes, mais elles sont extrêmement vivantes. Est-ce qu'on peut appliquer directement ce qu'elle a dit pour trouver la solution d'aujourd'hui ? Je ne le crois pas. Je crois qu'il ne faut jamais faire ça. Mais il faut essayer de comprendre ce qu'elle a fait dans son temps et essayer de reproduire un mouvement de courage, c'est tout.
En conclusion de cette série consacrée à Simone de Beauvoir, que dire ? D'abord, qu'elle venait en effet d'un monde ancien et réactionnaire, et qu'elle a parcouru un immense chemin. Oser parler, par exemple, d'homosexualité en 1949, dans le deuxième sexe, c'était d'une audace inouïe. Ensuite, quand on renonce à son logiciel de départ, quand on lutte comme elle, contre les schémas de pensée qu'on vous a inculqués enfant, on a parfois peur d'être rattrapé par des logiques anciennes. On peut sans doute expliquer ainsi certains aveuglements chez elle, et notamment en matière d'idéologie politique. Enfin, quand on entreprend comme elle un grand voyage social, ce n'est jamais gratuit. Celles et ceux qui ont suivi cette voie de penser contre eux-mêmes savent bien ce qu'il en coûte. Écoutez ce qu'en disait Simone de Beauvoir, et ce seront les mots de la fin, quand elle évoquait la mort de son amie d'enfance, Elisabeth Lacoing, dite Zaza. Et comme d'habitude, je vous laisse juge.
Simone de Beauvoir, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, 1958. Les médecins parlèrent de méningite, d'encéphalite, on ne sut rien de précis. Zaza avait-elle succombé à un excès de fatigue ou d'angoisse? Souvent la nuit, elle m'est apparue, toute jaune, sous une capeline rose, et elle me regardait avec reproche. Ensemble, nous avions lutté contre le destin fangeux qui nous guettait, et j'ai pensé que j'avais payé ma liberté de sa mort.
Mon enfance, ma jeunesse, j'avais envie de les sauver. Il y a une telle différence entre une vie d'adulte et puis une vie d'enfant, d'adolescence, qu'on a l'impression un peu d'avoir enterré dans la femme qu'on est devenue, la petite fille et la jeune fille qu'on a été. Et alors c'était comme une espèce de, je sais pas, de devoir envers elles que je ressentais, de les ressusciter. Surtout qu'il y avait eu des moments de mon adolescence qui m'avaient été assez douloureux et elle s'est terminée par la mort de ma meilleure amie dans des conditions assez tragiques. Alors j'avais vraiment envie de rendre justice à la fois à moi-même et à la fois à cette amie et à tout ce que cette enfance et tout ce que cette jeunesse avait été. Donc c'était un projet qui remontait très loin. Je pourrais dire qu'en un sens, je n'ai écrit mes autres livres, ceux d'avant, les romans, que pour avoir le droit un jour d'écrire cette histoire. Parce que naturellement, si j'avais été absolument personne, pas du tout connue, ça n'aurait pas eu de sens de raconter ces débuts. Il fallait déjà être un auteur un petit peu connu pour que ça veuille dire quelque chose de raconter le temps de mon apprentissage.
Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Bérangère Varluzel. Reportage, Martine Abbat. Assistance éditoriale, Irène Menahem, Frédéric Martin et Aurore Juvenel. Chronologie des faits, Sylvie Lebon de Beauvoir, aux éditions Gallimard. Mixage, Basile Bocquer et Benjamin Orgeret. Simone de Beauvoir, Un voyage en bourgeoisie, est un podcast original de France Inter.